Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et tout le monde. À demain, même heure, même endroit. Nous, on est parti. Le 18-20, France Inter est ouvert. Si c'était votre premier jour, asseyez-vous. Tiens, c'est mérité. Et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Mais qui donc pour démarrer ces deux heures d'infos? Amélie Perrier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi 2 septembre, sans la gomme et le stylo neuf forcément.
La rentrée des classes, eux l'attendent et l'espèrent plus fort que les autres enfants. Parfois atteints de handicap, ils ont de plus en plus la possibilité d'intégrer les mêmes écoles. Nous suivrons la journée de Ferhat, il est autiste. Un monstre au-dessus des Bahamas, l'ouragan Dorian, d'une puissance exceptionnelle et d'une lenteur exceptionnelle. Il stagne au-dessus de l'archipel des Caraïbes et provoque des dégâts considérables. Une compagnie aérienne au bord de la sortie de piste, Aigle Azur demande son redressement judiciaire. La trottinette électrique envahit nos villes, mais elle pose des questions de sécurité. Une jeune femme est morte à Reims, renversée par une voiture. Le code de la route pourrait bientôt intégrer ce nouveau mode de déplacement. Et puis la liste des heureux élus pour le mondial de rugby. On va savoir ce soir qui sont les 31 sélectionnés pour porter le maillot français lors de la compétition au Japon. Un groupe annoncé dans des conditions un peu particulières.
À 18h15, un jour dans le monde, en Algérie, ce soir, grâce à la romancière Kauter Adimi, qui signe un roman qui vous fera comprendre la révolution en cours à travers l'histoire de deux généraux et d'un terrain de foot. Le bruit du monde est en Argentine ce soir notamment, et puis 19h20, le téléphone sonne. Nous aussi, on est dans la rentrée, on va explorer les relations parents-enseignants qui se sont beaucoup dégradées ces dernières années. Un ton parfois déplacé de certains parents, une ingérence dans les cours, est-ce que c'est permis ou pas? Il arrive même que ça tourne très mal, voire vraiment très mal. Comment renouer ces fils et partir du bon pied en cette rentrée? 01 45 24 7000.
France Inter.
Le ministre de l'Éducation affirme donc que c'est l'un des progrès de cette année.
Une école davantage ouverte aux enfants souffrant d'un handicap. Leur nombre a triplé ces 13 dernières années. Ils sont 360 000 inscrits aujourd'hui. L'inclusion, le fait d'être scolarisé dans les mêmes écoles que les autres enfants est une priorité, nous dit le gouvernement. Lisa Guyenne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez donc suivi aujourd'hui la rentrée de Ferhat en banlieue parisienne.
Oui, Ferhat, un petit garçon de 5 ans qui est autiste. Il ne parle pas, il ne s'exprime pas verbalement. Il est scolarisé depuis 2 ans à l'école Louis Pasteur d'Épinay-sur-Seine, une maternelle ouverte à tous les enfants, mais avec une classe spéciale, l'UEMA, l'unité d'enseignement maternel autisme. Son papa Mounir l'a accompagné ce matin.
Ça va, c'est bien passé, voilà, il n'a pas pleuré. Dès qu'il est rentré dans la classe, il a pris ses marques dès le début. En plus, l'équipe, c'est toujours la même depuis 3 ans, donc ça facilite aussi, quoi.
Une équipe de 8 professionnels de santé et d'éducation pour seulement 7 enfants, ce qui permet d'adapter le programme à chacun. Mais en dehors des temps d'apprentissage, les enfants autistes sont intégrés aux autres élèves. Delphine Altenbourger est enseignante à l'UEMA.
Nous partageons les récréations, le temps de cantine, tous les spectacles de l'école, les sorties et les temps d'inclusion, donc dans des classes de moyens et grandes sections.
Une manière de sociabiliser ses enfants, mais aussi d'éduquer les autres à la différence, comme l'explique Mounir.
Moi, je le vois, hein, quand on va au parc, quand on va au centre commercial, oh, il y a Ferhat, tous les enfants connaissent leur prénom, ça se passe très bien, hein, et ils veulent s'amuser avec eux, ils veulent... ça se passe très très bien. Hein. C'est une initiation au handicap aussi pour les autres enfants, je pense aussi, quoi, voilà.
Et ces classes inclusives continuent à se développer en France. Cette année, une quarantaine d'entre elles ont ouvert en école primaire.
Merci beaucoup, Lisa Guyenne. Une rentrée également marquée par la réforme du lycée. Fini les filières L, ES ou S pour les élèves de première. Ils commencent à expérimenter les spécialités, 3 moitiés au choix. Nouveauté également cette année, l'instruction obligatoire des 3 ans contre 6 jusque-là.
La dévastation est sans précédent, ce sont les mots du Premier ministre des Bahamas.
Frappé de plein fouet par l'ouragan Dorian, d'une puissance rare, très peu de nouvelles nous parviennent encore de l'archipel des Caraïbes. Beaucoup de communications sont coupées, mais écoutez l'appel à la prudence de Maxine Duncombe. Elle est la chef du district d'Abaco Central aux Bahamas. Elle s'exprime sur la chaîne de télé ZNS Bahamas.
Je vous parle depuis le siège du gouvernement des Bahamas. On tient le coup, mais on a été très secoués. Tant que nous restons coincés ici, nous ne savons pas à quel point les dégâts sont importants. Mais à nouveau, nous devons vous mettre en garde. Restez où vous êtes. Ne sortez pas. Ne prenez aucun risque, car cet ouragan, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Dès que nous pourrons sortir d'ici, nous irons mesurer l'étendue des dégâts et nous reviendrons vers vous.
Voilà, cette responsable des Bahamas, traduit par Louise Baudet. Alors, classé en catégorie 5, l'ouragan Dorian vient d'être rétrogradé en catégorie 4. Le phénomène progresse très lentement. Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous.
Notre météorologue. Pourquoi on peut craindre le pire de cette tempête ce soir?
Le principal élément, c'est déjà la quasi-stationnarité, ou en tout cas le peu de mobilité, puisque...
Il avance pas, oui.
Il n'avance quasiment pas. Il avance à une vitesse à peu près de 2 km par heure, ce qui est extrêmement lent pour un phénomène de cette envergure. Donc évidemment, on pense forcément aux fortes rafales de vent, aux effets de pression, de différences de pression qui dévastent les maisons, mais on oublie aussi les fortes précipitations qui peuvent générer des inondations éclairs en quelques temps, en quelques heures. Là, on parle de centaines de litres d'eau par mètre carré sur plusieurs jours. Donc comme ça bouge peu, ça donne des quantités abondantes.
Mais là, la puissance baisse, ça donne de l'espoir, a priori ça va se calmer?
Alors a priori, c'est ce qui est un peu prévu, c'est-à-dire que là pour l'instant, comme il touche terre en fait, il perd un peu son essence, qui est en fait l'essence d'un cyclone et d'un ouragan, c'est l'eau chaude. Donc forcément s'il touche terre, il perd un petit peu de cette énergie-là, en revanche il reste extrêmement puissant. On parle de rafales de vent à plus de 300 km par heure, avec des vents moyennés à 250 km par heure, donc progressivement il va aller se diriger vers la Floride.
Oui, c'est quoi la suite? Ce sont les côtes américaines.
Il va se diriger, pour l'instant, il est à peu près encore à 150 km à l'est de la Floride. Et progressivement, il va arriver vers la Floride, longer les côtes est, allant vers la Caroline du Nord. Mais on ne sait pas encore forcément la trajectoire qu'il peut prévoir. Il peut très bien rentrer un moment dans les terres pour aller dévaster plutôt l'intérieur. Pour l'instant, le centre et l'œil du cyclone et de l'ouragan est plutôt prévu de rester en mer.
Merci beaucoup, Sébastien Léas, notre météorologue. Et justement, en Floride, la population est évacuée. 800 000 habitants de la côte. En Caroline du Sud, également évacuée selon la Croix-Rouge américaine. 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées la nuit prochaine ou demain. La révolte souffle toujours sur Hong Kong. En ce jour de rentrée, là-bas aussi, des milliers d'étudiants vêtus de noir ont manifesté. Des lycéens ont formé des chaînes humaines devant leur établissement. Ils vont boycotter les cours pendant 2 semaines pour continuer de protester contre la mainmise de la Chine sur le territoire semi-autonome. La Tunisie, elle, se lance aujourd'hui dans la campagne présidentielle. 26 candidats en lice. Les électeurs voteront aussi pour renouveler leur parlement. Un scrutin très ouvert pour ces deuxièmes élections depuis la révolution de 2011. Mais une chose semble déjà sûre, les femmes en seront les grandes perdantes. Un paradoxe tant leur place conquise dans la société faisait la fierté du pays ces dernières années. C'est la correspondance à Tunis de Maureen Mercier.
Sur les 26 candidats à la présidentielle, 2 femmes seulement, dont Habir Moussi, avocate, ancienne collaboratrice et fervente admiratrice du dictateur Ben Ali. Elle milite pour le retour d'un régime présidentiel puissant. Des 2 femmes qui se présentent, c'est celle qui a des chances d'accéder au 2e tour. Alors, est-ce que ces Tunisiennes lui réservent leur voix ? Surtout pas.
Déjà, elle n'accepte pas la démocratie.
Franchement, c'est la honte. Pour la Tunisie et surtout pour les femmes. Tunisienne.
Les femmes ne se sentent pas bien représentées pour la présidentielle. Pire, elles risquent de perdre beaucoup de sièges à l'Assemblée. Or, depuis la Révolution, le pouvoir est entre les mains du Parlement, bien plus que dans celle du président. Karla Wenaïchia, députée depuis 2014, oui, elle souhaite rempiler, mais...
Vu le nombre très très important de listes électorales, tous les partis et toutes les listes ont en majorité des hommes en tête de liste, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de femmes à l'Assemblée. Oui, c'est beaucoup de déceptions. C'est très très frustrant.
Ces dernières années, les partis ne cessent de se déchirer. Les batailles d'égo sont féroces au point que la loi qui tend à préserver la présence des femmes ne suffira pas. En matière d'égalité homme-femme, la Tunisie s'apprête à faire un pas en arrière. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Les élections présidentielles et législatives se tiendront le 15 septembre. 18 migrants ont été sauvés en Méditerranée par un ferry, un bateau de la Corsica Linea la nuit dernière. C'est une première pour la compagnie. La direction explique que le navire et son capitaine n'ont fait qu'appliquer le principe de solidarité entre gens de mer. Les urgences en grève en France, 233 services touchés, ce qui veut dire la moitié des urgences concernées dans le pays. Et ce soir, on apprend que les médecins urgentistes rejoignent le mouvement. Ils réclament davantage de moyens, de lits et de meilleures conditions de travail.
Proche du naufrage également, la compagnie aérienne Aigle Azur.
Aigle Azur, en cessation de paiement, vient de demander son placement en redressement judiciaire. On imagine l'inquiétude pour les 1150 salariés. Le comité d'entreprise ce matin était tendu. entendu. Alors, Philippe Lefebvre, quels sont les scénarios possibles ce soir pour la compagnie?
Eh bien, il y a deux possibilités. L'arrivée de nouveaux actionnaires, voire de repreneurs. Et dans ce domaine, il se murmure qu'Aiglazur pourrait intéresser des investisseurs conseillés par un ancien patron d'une compagnie aérienne française. Ou alors, faute d'argent frais, eh bien, ce pourrait être la fin. D'autant que l'actionnaire majoritaire actuel, le groupe chinois HNA, lui-même en situation financière très difficile en Chine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les salariés réunis ce matin devant le siège de la compagnie sont inquiets et déçus, car ils faisaient confiance, il y a quelques jours encore, à un actionnaire minoritaire qui promettait de mettre 15 millions sur la table pour éponger une partie des dettes en échange du départ immédiat de l'actuel PDG Émir Agrondin et délégué UNSA chez Aiglazur.
Bien entendu que ça a été bien accueilli. On nous annonce l'injection de 15 millions d'euros. Et quand dans les 36 heures qui suivent, on découvre que c'était un putsch, eh bien honnêtement, ça inquiète.
Inquiétude d'autant plus grande que personne n'a encore vu la couleur de ces 15 millions d'euros. Certains salariés se demandant même s'ils existent réellement. Enfin, dans les agences de voyage qui vendent la majeure partie des billets d'Aiglazur, les ventes sont à l'arrêt. Visiblement, les consommateurs n'ont plus confiance et choisissent déjà d'autres compagnies pour leur prochain déplacement dans le bassin méditerranéen.
C'est un moyen de transport plus propre que l'avion, mais aussi plus dangereux, semble-t-il. La trottinette électrique, elle envahit nos villes et vient de provoquer la mort d'une jeune femme à Reims. Elle circulait sur l'engin quand elle a percuté une voiture tôt hier matin. Elle n'a pas survécu à ses blessures. La victime ne portait pas de casque, mais des écouteurs dans les oreilles. Elle est la troisième cette année à perdre la vie à trottinette. À Reims, après le drame, la question de la législation et de la sécurité se pose parmi les utilisateurs, comme l'a constaté Philippe Régoré.
Instaurer des règles, pourquoi pas, mais certains utilisateurs de trottinettes électriques se disent sceptiques sur leur efficacité.
C'est pas qu'il n'y a pas besoin, mais c'est comme le vélo, on préconise de mettre un casque, mais personne ne le met, donc ça sera pareil pour ça.
Mais il n'y a pas le choix, répondent la plupart des utilisateurs, le phénomène est devenu trop important.
Sans règles, ce serait une foire, ce serait la foire complète, donc ce serait important d'instaurer des règles.
Les vélos doivent rouler sur la route et pas sur le trottoir, donc ça se passe très bien depuis très longtemps, donc pourquoi ça pourrait pas bien se passer avec les trottinettes aussi? Donc c'est normal de les faire rouler sur la route.
C'est en effet un des points du projet de décret. En l'absence de pistes ou bandes cyclables, il faudra rouler sur la route, à condition que la vitesse y soit limitée à 50 km/h. Mais toutes ces règles ne suffiront pas, dit Antoine Prieur, président de l'association Véloxygène, qui travaille au développement du vélo à Reims. Il faut aussi améliorer aménagement et signalisation.
Il faut que les gens qui utilisent ces moyens de déplacement sachent là où ils ont le droit d'aller, là où ils n'ont pas le droit d'aller, là où ils doivent renforcer leur vigilance. Il faut que ça leur apparaisse très clairement au niveau de la conception des aménagements. Sinon, c'est l'usager qui s'adapte avec sa propre perception et malheureusement, des fois, il se met en danger sans même s'en rendre compte.
En tout cas, les amendes pourront être importantes, jusqu'à 1 500 € pour un dépassement de vitesse.
Une nouvelle réglementation sur les trottinettes électriques doit être ajoutée au code de la route dans les semaines à venir.
Allez, à 18h, presque 13, Amélie, du sport sur gazon cette fois et du sport professionnel aussi, le mondial de rugby se prépare.
Ils seront 31 élus, les 31 rugbymen sélectionnés pour représenter la France au mondial au Japon. Le groupe définitif pour le 15 tricolore est dévoilé dans le journal de 20h de TF1, donc ce soir. Presque comme pour les équipes de France de football, Fanny Lechevestrier, bonsoir, presque. Hein,
presque, oui, car vous ne verrez pas ce soir le sélectionneur Jacques Brunel en direct sur le plateau du journal télévisé annoncer les noms des heureux élus comme Didier Deschamps ou Corinne Diacre l'avait fait dernièrement pour les Coupes du Monde masculine et féminine de football. Là, c'est Gilles Boulot, le présentateur du 20h, qui égrènera la liste. Il n'est bien sûr pas sélectionneur du 15 de France. Le sélectionneur Jacques Brunel, lui, n'interviendra qu'après pour expliquer ses choix dans une vidéo enregistrée dans la journée. Alors, cela peut paraître un petit détail, mais cela enlève en fait le caractère solennel à l'événement. Surtout, le choix fait par TF1 renforce une fois de plus l'impression que Jacques Brunel n'est pas l'homme de la situation, qu'il n'est pas vraiment l'acteur principal à la tête des Bleus de rugby. Lui, dont le rôle de sélectionneur avait déjà été mis à mal par l'arrivée à ses côtés du charismatique Fabien Galthié, qui prendra officiellement les commandes de l'équipe de France de rugby après la Coupe du Monde. Dans le même temps, sachez que d'autres sélections, comme le Pays de Galles, ont par exemple fait des annonces originales via des vidéos en mettant en avant les clubs formateurs des champions sélectionnés et toute la passion qui règne dans le pays autour du rugby, de manière de faire qui en disent long finalement sur la place aujourd'hui du rugby dans les deux nations.
Et le mondial au Japon se tiendra du 20 septembre au 2 novembre, un mot de foot pour terminer, puisque on connaît le le nouveau gardien du PSG, Keylor Navas. Le gardien costaricien vient d'officialiser son arrivée au Paris Saint-Germain. Le gardien Alphonse Areola, lui, fait le trajet inverse. Il est prêté, le Parisien, au Real Madrid.
Eh ben, voilà,
dernière journée du mercato.
J'étais hyper inquiète. Vous voyez, ben, vous m'avez bien rassurée.
Je vous ai rassurée quand même.
Je vous remercie beaucoup. Bon, il y a Sébastien Léas qui rigole. Allez, Amélie Perrier, vous revenez quand même dans Un jour dans le monde. À tout à l'heure.